La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à tous. Bonjour Delphine, Delphine Descamps. Vous êtes professeure de piano et référente public empêché au Conservatoire de musique, de danse et théâtre de Montargis depuis 2015. Et vous êtes également formatrice pour l'enseignement de la musique adaptée aux personnes en situation de handicap. Nous avions eu ensemble l'occasion d'organiser un premier grain de causette en juin dernier. Et j'ai décidé de vous solliciter à nouveau pour partager avec les auditeurs votre expérience et votre travail avec les élèves touchés par des handicaps 10, TSA, et TDAH, pour lesquels vous animez régulièrement des formations au Conservatoire de Montargis. Différents sites spécialisés sur ces handicaps m'ont permis de préparer le grain de causette. Il s'agit du site internet de la Fédération française des 10, de handicap.fr, et enfin de celui de l'association Hyper Super TDAH France. Delphine, bonjour.
Bonjour Bertrand, merci beaucoup de m'avoir invité.
Je vous en prie. Delphine, depuis combien d'années organisez-vous des formations d'apprentissage du piano et de la musique à destination des élèves touchés par les handicaps classés en 10, TSA et TDAH?
Alors à vrai dire, j'ai pour habitude d'accueillir dans mes classes des élèves à besoins spécifiques depuis de nombreuses années. La clé, en fait, c'est que c'est une véritable passion de travailler avec ces publics. Donc, en fait, depuis 25 ans, chaque année, des tout-petits, des enfants, des adolescents suivent mes leçons, que ce soit aussi bien au Conservatoire de Montargis que dans le cadre de mon école privée. Et il y en a certains qui viennent parfois de loin, qui font jusqu'à une heure de trajet pour venir faire leur séance. Donc, en fait, je me suis orientée vers les TSA, donc pour rappeler ce qu'est ce sigle, TSA, les troubles spécifiques de l'autisme, et TDAH, troubles du développement de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc en fait, je me suis orientée vers ces spécificités beaucoup plus quand je me suis retrouvée démunie face à cette problématique, on va dire dès 2012, où j'ai accueilli pour la première fois un élève avec troubles de l'autisme. Dans les premières séances, je me sentais un petit peu désemparée pour pouvoir l'accueillir. Et puis, je me suis dit, moi qui aime beaucoup tout ce qui est nouveau, un petit peu comme un véritable challenge, on va dire, eh bien, je me suis nourrie, j'ai fait des recherches, comme tout pédagogue, comme tout expert en pédagogie, on pourrait dire. J'ai fait des recherches et je me suis formée. Et depuis, je prends régulièrement des élèves, enfants, adolescents, avec ces spécificités.
Merci Delphine. C'est donc l'événement qui vous a conduit à vous spécialiser dans cet enseignement, c'est la prise de conscience que vous n'aviez pas de bagage suffisant pour organiser, préparer des cours correctement.
Alors, autant j'avais justement tous les bagages possibles dus à mes nombreuses années d'expérience, de recherche pour les autres handicaps, tout ce qui est handicap moteur, psychique, donc handicap sensoriel comme la cécité ou la surdité. Et moi-même, depuis toujours, je suis confrontée aux situations de handicap étant malentendante. Et effectivement, l'un des événements qui m'a permis justement d'aller plus loin auprès de ces handicaps, c'est d'abord la méconnaissance de ces handicaps et surtout la difficulté de pouvoir travailler avec ces personnes. À l'époque, en 2012, il y avait très peu de formations sur ces spécificités. Il y avait très peu d'articles, on va dire, sur enseignement musical et artistique et troubles 10 ou TDAH ou TSA. Et en même temps, je me suis retrouvée confrontée à une problématique par rapport à ma propre fille, qui a 13 ans aujourd'hui et j'ai remarqué des soucis qui ont permis un diagnostic. Donc elle souffre de troubles dyslexiques, dysorthographiques. Et ça a été l'un des éléments déclencheurs qui m'ont permis justement de creuser un peu plus pour me dire, mais au fait, il y a quelques années, j'avais un élève qui avait à peu près la même problématique puisque je l'initiais à la musique très tôt. Et effectivement, quand il a fallu aborder la lecture de notes et les histoires de dessus-dessous, gauche-droite et de repérage sur la partition, ça m'a fait tilt. Et donc, effectivement, elle a été diagnostiquée au niveau scolaire avec de la rééducation. Donc, je me suis nourrie aussi de toutes les séances d'orthopsie que j'ai suivies pour aider ma propre fille et en même temps en cherchant ce que l'on faisait dans les séances d'orthophonie pour permettre d'aider aussi ses élèves et bien sûr de se former.
Merci. Les recherches que vous avez pu faire, les recherches personnelles, vous ont-elles conduites à suivre des formations au CNFPT et à lire des livres sur le sujet en français?
Oui, beaucoup lire de livres et de recherches Internet. J'ai fait des formations CNFPT, des formations de sensibilisation. On va dire que je les ai toutes faites, celles du CNFPT. Voilà. Et effectivement, j'ai également fait une formation et auquel je suis certifiée. C'est avec la méthode Melodis. Donc, c'est une méthode de rééducation auditive, on va dire de remédiation, une méthode de remédiation des troubles des apprentissages. Donc, la méthode Melodis. Et donc, effectivement, c'est très beaucoup adapté puisque ça a été créé par un neurologue, en même temps par une orthophoniste et surtout par une professeure de piano qui s'appelle Alice Dormois et qui est vraiment une pédagogie tout à fait adaptée pour l'enseignement auprès des troublistes et également pour les enfants dits précoces. Et merci, j'ai trouvé beaucoup de clés et j'ai été certifiée en juin 2021.
Merci Delphine. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est le travail de remédiation? Vous avez utilisé ce terme.
Alors, c'est plus les responsables de la pédagogie Mélodis qui vous le diront. Remédiation, on ne va pas forcément parler de rééducation, parce que quand on travaille l'apprentissage de la musique de cette manière, en fait, c'est ce qui se passe auprès des troubles 10, c'est qu'on a des difficultés de connexion, en fait, qui ne se font pas forcément. Ce sont les fameuses difficultés miroirs où, par exemple, un enfant, comme j'ai pu le voir auprès de ma fille, au tout début, elle confondait certaines lettres, le P et le Q, c'est comme les lettres miroirs, le D, le B, le V avec le F. Et du coup, quand elle avait justement ses soucis de lecture de notes, elle avait du mal à se concentrer sur la noire qu'elle voyait avec la hampe d'un côté droit ou du côté gauche. Dans les croches, ça se confondait avec les demi-soupirs. Enfin voilà, c'était vraiment très très complexe. Et justement, cette pédagogie-là permet de retravailler certains paramètres qui vont permettre justement de reconnecter, de mettre en avant les difficultés et justement par des activités dites d'automatisation également multimodales, qui sont des activités qui permettent de travailler aussi bien le corporel, l'auditif, la rythmique et bien sûr l'instrument. Donc j'utilise ces outils dans le cadre du parcours adapté qu'on a mis en place au sein du Conservatoire de Montargis. Et j'ai un atelier de pratique collective où je reprends ces outils, justement, avec les élèves ayant des troubles des apprentissages.
Vous écoutez, Delphine, je réfléchis, et c'est vrai que les difficultés que vous avez évoquées sont communes à des élèves qui n'ont pas de handicap dans l'apprentissage de la lecture ou bien dans l'apprentissage du solfège. Y a-t-il une différence de nature ou de degré entre des élèves sans handicap et des élèves touchés par les handicaps?
Alors, vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Je vous écoutais évoquer les difficultés d'apprentissage dans la lecture et dans l'apprentissage du solfège. Oui. Et ces difficultés, elles sont communes au début de l'apprentissage à des élèves qui ont un handicap et à des élèves qui n'ont pas de handicap, puisque l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage du solfège demande beaucoup d'efforts, requiert de l'attention, et ne vient pas, sauf exception, spontanément dans l'esprit des élèves. Est-ce qu'il y a une différence de nature ou de degré de difficulté entre les élèves qui n'ont pas de handicap et ceux qui ont un handicap dans l'apprentissage de la musique et du solfège, par exemple?
Alors, c'est une question effectivement que tout enseignant de musique se pose. On va dire que l'apprentissage de la musique, le solfège, on a, ça n'existe plus maintenant. Cela s'appelle formation musicale. Maintenant, justement, c'est en soulevant ces problématiques, en étant confronté à des élèves qui ont des difficultés du fait de leur handicap, cela permet justement de mieux comprendre ceux qui n'ont aucun handicap et qui ont aussi des difficultés de lecture. Donc, il s'agit déjà, quand on est enseignant, on a la particularité de s'adapter à l'élève. Donc, même avant, parce qu'il y a certains enfants qui ne sont pas diagnostiqués, il y en a encore beaucoup, ou dont les parents n'osent pas forcément parler par peur, ou par peur du regard aussi de la personne. Et effectivement, on est là pour leur permettre de s'épanouir grâce à une activité artistique dans le sens large, et en même temps de leur donner des pistes qui vont leur permettre d'apprendre à déchiffrer une partition, d'apprendre à jouer d'un instrument. Et quand on parle de formation musicale, il n'y a pas que la lecture proprement dit. Il y a tout plein d'autres facteurs où on utilise tous les sens et toutes les mémoires, si je peux dire. La mémoire kinesthésique, donc la mémoire du geste, la mémoire tactile, la mémoire de la spatialisation, comment se retrouver dans une partition. Voilà, donc ça nécessite vraiment plein de paramètres qui ne sont pas forcément adaptés que pour les publics dits en situation de handicap. J'espère avoir été clair sur ce sujet.
Oui, tout à fait. La question que je me pose, évidemment, c'est, donc il y a des différences entre les élèves qui ont un handicap et ceux qui n'en ont pas. Il y a des difficultés qui peuvent se recouper. Mais parmi les élèves touchés par le handicap, parmi eux, les troubles dyslexie, dysphasie, dysphasie se caractérisent par quel type de difficultés?
Alors, ça tout dépend en fait de leur spécificité. On va dire qu'un élève à trouble 10, d'ailleurs cela concerne 8 à 10% de la population qui a des troubles 10. Donc un élève peut être dyslexique, donc avoir des soucis de lecture, et par ailleurs souvent dysorthographique, c'est souvent lié, des soucis dans l'orthographe. On peut aussi avoir des élèves qui pourraient être dysgraphiques, donc des soucis dans lecture, on va dire, qui pour autant n'ont pas de soucis de lecture ou d'orthographe. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, c'est riche hein, aussi. Et effectivement, chaque enfant, puisqu'on parle principalement des enfants qui sont diagnostiqués quand ils sont dans l'apprentissage de la lecture, vers 7 ans souvent, 7-8 ans. Et effectivement, c'est un sujet qui est particulièrement délicat parce que justement, il faut déjà arriver à comprendre comment l'enfant est en tant que 10, quelles sont ses difficultés, bien sûr, au niveau scolaire, comprendre comment il fonctionne et surtout comment il compense. Effectivement, ils arrivent à s'adapter, ils arrivent à trouver des stratégies de compensation qui font qu'à un moment donné, on ne voit plus qu'ils sont dyslexiques ou dysorthographiques. Donc après, il y a des stratégies d'adaptation en fonction aussi de leurs points forts. Ça, j'y tiens beaucoup. Dans toutes les formations que je propose, et même moi-même en tant que pédagogue, je prends toujours en compte les points forts de l'élève. Il n'arrive pas à lire les notes, c'est pas grave, on va travailler l'oralité, on va travailler la mémoire auditive, on va travailler le rythme, on va travailler le corporel. Il n'arrive pas à écrire, ce n'est pas grave, on a l'avantage d'avoir des outils numériques à disposition, donc on va adapter le cours, c'est plus facile dans le cadre d'un cours individuel, mais on peut aussi le faire dans le cadre d'un cours collectif, où on a beaucoup d'outils numériques, surtout depuis la crise sanitaire, où nous-mêmes enseignants, on a essayé de se former aussi, de chercher à utiliser tous ces outils numériques. Donc, il y a moyen de pouvoir adapter à chacun selon les troubles. En sachant que la musique, pour tout le monde, aide énormément à améliorer l'apprentissage scolaire et l'apprentissage en général.
Oui, c'est vrai. Merci Delphine. Vous accueillez également des élèves autistes et donc, oui. Il faut le rappeler, vous enseignez le piano. En quoi l'apprentissage du piano est-il particulièrement favorable aux élèves autistes? Est-ce qu'il y a une particularité du piano, un avantage sur d'autres instruments pour l'apprentissage des élèves autistes?
Alors, à vrai dire, si je peux parler de l'expérience que j'ai avec mes élèves à troubles autistiques, pour beaucoup, ils ont déjà vu un piano. Alors, ça peut être à la gare, notamment, ça peut être chez des amis, ça peut être dans l'un de leurs déplacements. Et je remarque que avant qu'ils arrivent dans le cours de piano, ils ont déjà eu l'occasion de jouer. Alors, l'avantage du piano, c'est qu'en fait, il y a une immédiateté au point de vue du son. C'est-à-dire qu'un élève autiste, dans ce que je remarque, dès qu'il rentre dans la salle, s'il y a plusieurs instruments de musique, il va aller obligatoirement vers le piano parce que le piano est ouvert, parce qu'il est prêt, parce qu'il est en place. Et donc, effectivement, il y a cette immédiateté du son et cette recherche aussi sonore. Le piano émet beaucoup de décibels, on va dire. Et je sais que quand ils arrivent à leur première séance, ils aiment beaucoup tendre l'oreille derrière le piano au moment où moi je joue, même se coller carrément l'oreille sur la caisse de résonance pour justement s'approprier les sons. Alors, il y a aussi cette autre piste, c'est que dans certains de mes élèves ayant des troubles autistiques, ils ont une excellente oreille, dite l'oreille absolue, qui leur permet justement d'entendre un morceau une première fois, même en polyphonie, et de pouvoir le rejouer systématiquement. Pas tous, mais effectivement, il y a aussi cette piste. Enfin, l'assise est naturelle. Certains encore, du fait de leur handicap, n'ont pas la possibilité de comprendre qu'il faut s'asseoir pour pouvoir jouer au piano. Du coup, au tout début, le temps de faire connaissance, le temps aussi de s'approprier leur bulle autistique, on enlève la banquette et je les laisse jouer debout. Cela arrive aussi. Après, au sein du conservatoire, on a des élèves autistes qui sont dans d'autres instruments. Et au contraire, c'est une ouverture. Et c'est très important de pouvoir proposer cette ouverture.
Merci Delphine. Vous avez parlé de phénomènes de compensation de la part des élèves. Est-ce que les phénomènes de compensation mis en place spontanément par les élèves associés à votre méthode d'apprentissage permettent d'estomper le handicap? Et quel gain, quel progrès percevez-vous au fil du temps et de l'accompagnement que vous faites auprès de ces élèves?
Alors, on va dire que quand on a un handicap, c'est pour la vie. C'est pour la vie, effectivement, il y a des améliorations, mais c'est surtout, nous sommes face, nous avons l'avantage d'avoir un cerveau hyper malléable. Et au fur et à mesure de l'avancée dans la vie, il y a cette plasticité dite cérébrale qui permet justement d'avancer et pour aller vers du mieux. Et effectivement, on est face en fait à des enfants qui apprennent, qui sont obligés de faire des efforts, de fournir énormément d'efforts pour être au même niveau que les autres. Donc effectivement, ils ont appris par eux-mêmes déjà à compenser beaucoup pour faire en sorte que ça ne se voit pas finalement. Donc et moi, de mon côté, la première concernée, je ne souhaitais pas que mon handicap se voit. Et j'en parle depuis récemment avec vraiment liberté et confiance depuis à peine 10 ans. Alors qu'avant, effectivement, c'était une honte de se dire on est malentendant et d'autant plus dans le monde de la musique. C'était pas du tout compatible. Mais en même temps, on va dire que c'est la compensation faite aussi bien par l'élève qui cherche des solutions par lui-même que l'accompagnement qu'il va avoir à côté. Donc aussi bien chez l'orthophoniste, l'orthoptiste pour la rééducation des yeux, ou alors le psychomotricien pour la rééducation corporelle, ou alors l'ergothérapeute pour notamment prévoir des aménagements, comme par exemple s'il y a besoin d'un ordinateur pour compenser les soucis de graphisme, d'écriture. Et puis, d'un autre côté, on a bien sûr l'enseignant de musique ou l'enseignant artistique qui va essayer de, notamment suite à sa propre expérience ou suite aux formations ou autres, qui va essayer de répondre à cette problématique qui ne sera finalement plus un et qui permettra surtout à l'élève de s'épanouir grâce à l'apprentissage d'un instrument de musique. Donc on va dire qu'effectivement, l'apprentissage de la musique aide énormément, les aide déjà à s'épanouir, à sortir de leur isolement et à leur permettre d'avoir confiance en eux, d'améliorer aussi leur capacité de concentration et bien sûr de mieux s'intégrer au sein du tissu social puisqu'ils se sentent souvent isolés ou en situation d'échec dans la vie en général, où il y a une obligation de résultat. Et finalement, le fait de mettre en place des parcours dits personnalisés, libres ou adaptés selon l'établissement d'enseignement artistique, ça permet aussi de les laisser apprendre à leur rythme. Parce qu'effectivement, l'avantage de la pratique musicale, ça permet beaucoup plus spécifiquement de développer le langage. Le rythme de la musique aide énormément à comprendre le rythme du langage. Développer la motricité fine aussi, peu importe l'instrument de musique que l'on va faire. Et bien sûr, améliorer ses capacités de communication. Pour certains, j'ai des élèves qui ne parlent pas en classe ou très peu. Et grâce à l'apprentissage d'un instrument, ils arrivent à communiquer, même s'ils ne parlent pas forcément les non-verbaux notamment. Par le chant, par les dialogues que l'on peut faire quand on est à l'instrument, ou par le fait de regarder les autres en cours collectif, d'être vraiment dans un esprit collectif, un esprit de famille presque, où on se sent écouté et on n'est pas jugé par les résultats scolaires que l'on a, mais par sa manière à s'exprimer grâce à l'instrument.
Merci. Vous avez évoqué, on évoque les cours individuels, et là vous venez d'évoquer les cours collectifs. Est-ce que les élèves peuvent jouer ensemble? Font-ils des auditions publiques? Jouent-ils avec des élèves sans handicap? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles?
Tout à fait, au contraire. Moi, je vais vous parler d'une anecdote. Moi-même, à l'école, je ne me sentais pas à ma place. C'est la musique, justement, qui m'a beaucoup aidée à développer un peu le talent musical que j'avais, que j'ai toujours, bien sûr. Et le fait de jouer en public, c'était le seul endroit où on pouvait me féliciter parce que j'avais bien travaillé, on va dire. Et c'était vraiment un moment d'adrénaline, en fait. Un moment de bonheur, de bien-être, de se dire, j'ai réussi, le public est content, c'est formidable, et ça oblige aussi la personne à aller plus loin et à se dépasser, avec le soutien de l'enseignant, évidemment. Donc, il est très important de permettre à ses élèves de jouer en public, et encore plus quand ils ont une situation de handicap. Par contre, je ne stigmatise pas. S'il y a des élèves qui sont en parcours adapté et qui participent à une prestation collective ou une prestation au sein du conservatoire ou de l'école de musique, ils font partie intégrante du projet. On ne dira pas « élève tel handicap est ici ». Alors bien sûr, il y a des handicaps visibles et des handicaps invisibles. Et bien, ce n'est pas grave. On va prendre en compte la personne en elle-même sans s'occuper de l'étiquette proprement dit « personne en situation de handicap ». Et c'est là où justement la magie opère. C'est qu'on, par exemple, quand je mélange mes classes pour des prestations, alors durant par exemple les derniers confinements de la crise sanitaire, on a été obligé de s'adapter. Et à un moment donné, on ne pouvait pas faire de prestations publiques. Donc du coup, j'ai, d'un commun accord avec les parents pour le droit à l'image, filmé mes élèves. Et ensuite, on a regardé le film. Donc, j'ai mélangé ma classe dite de cours ordinaire et ceux en situation de handicap. Et c'est impressionnant parce que ma petite élève en fauteuil roulant avait l'autre élève à côté qui l'amenait, qui poussait son fauteuil pour qu'elle puisse être à l'aise pour jouer au piano. Et il y avait vraiment une osmose et c'est vraiment magique. En plus, ça permet aussi aux parents de savoir comment cela se passe au niveau artistique, et en même temps, ça permet aussi aux parents de se sécuriser quelque part, de se dire « mais mon enfant est capable de jouer, mon enfant a du talent, après à son niveau évidemment ». Et ça permet vraiment surtout de laisser de côté les difficultés et de mettre en avant la personne que l'on est. Bon, franchement, moi j'approuve, ils sont vraiment très 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 demandeurs. Très demandeur de prestations.
Merci Delphine. Vous avez dit tout à l'heure que 8 à 10% de la population était touchée par un handicap 10. On n'a pas évoqué la proportion des autres handicaps, mais est-ce que, avec l'expérience que vous avez, celle de 25 ans d'apprentissage musical, vous avez observé des évolutions dans les taux de handicap dans la population d'élèves? Ou bien ce sont des données qui sont fixes dans le temps?
Alors, ce sont des données après une évolution, on va dire, de la personne, c'est ça?
Non, une évolution dans la population globale, en fait. Pardon.
Oui, Alors, ce sont des statistiques, évidemment, une évolution. Alors, on va dire que, par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui ont des troubles 10 parce que, justement, on en parle vraiment depuis peu. En fait, dans les types de handicap, on ne parlait pas des troubles 10 à l'époque. On ne parlait pas forcément des troubles de l'autisme. Au départ, on parlait surtout du handicap moteur et ensuite du handicap sensoriel. Mais on a aussi ajouté les handicaps psychiques, comme par exemple ceux qui ont des troubles bipolaires, qui sont en dépression, anorexie ou autre. Ce sont des situations de handicap. Un jour ou l'autre, on est à un moment donné de sa vie en situation de handicap. On se foule la cheville, on ne peut pas marcher pendant 3 semaines, on a les béquilles, on est ce qu'on appelle en situation de handicap. Donc effectivement, on va dire que ça élargit beaucoup plus de possibilités. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de chemins de fait, depuis notamment la loi de 2005 qui oblige les établissements publics à recevoir les personnes en situation de handicap. Et effectivement, je remarque depuis que je suis référente depuis 2015, officiellement, puisque j'avais déjà des élèves en situation de handicap bien avant, et il y a beaucoup de progrès de fait, mais il y en a encore à faire. Et c'est la raison pour laquelle il est important de se former, c'est la raison pour laquelle aussi je sensibilise beaucoup à travers des formations, mais des conférences, des masterclass, les acteurs de l'enseignement artistique, mais aussi les élus, les collectivités, de la prise en compte de l'accueil de ces publics.
Les collectivités ont évolué sur ces questions. Est-ce qu'il y a des progrès qui sont notés? Je crois que oui. Quels seraient les progrès à réaliser dans le futur pour faciliter l'apprentissage des élèves?
Alors, les progrès à réaliser dans le futur, alors il faut tenir compte aussi de deux aspects. Il y a d'abord l'aspect accueil au niveau de l'établissement, proprement dit. Donc, les aménagements spécifiques, comme les ascenseurs. Tous les bâtiments n'ont pas forcément la possibilité d'installer un ascenseur, notamment dans les anciennes maisons, ou par exemple si un conservatoire a lieu dans un château ou autre, où il y a des escaliers partout et ce n'était pas forcément évident d'installer ou d'avoir la place d'un ascenseur. Donc effectivement, il y a encore des lieux où, là, au point de vue de la configuration du bâtiment, c'est souvent compliqué. Mais depuis peu, puisqu'en fait, dans le cadre du projet d'établissement de tout établissement classé, que ce soit école de musique municipale ou conservatoire classé, le fait d'avoir ce qu'on appelle un département handicap rentre dans le projet de l'établissement. Donc il y a des choses qui s'accélèrent depuis très peu de temps. Il y a des choses qui s'accélèrent, il y a souvent des référents handicap qui sont nommés. Moi, en tant que référente, c'est public empêché, donc c'est au-delà du handicap. Les publics éloignés, les publics qui n'ont pas la possibilité de venir au sein de l'établissement, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus large. Et donc oui, les collectivités sont les premières concernées, évidemment, mais beaucoup ne savent pas forcément comment s'y prendre. On a donc l'accessibilité du bâtiment, d'une part, c'est ce que j'ai dit, l'accessibilité aussi de pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap, le fait de voir si on a des enseignants qui peuvent aussi les recevoir, parce que n'oublions pas que tout enseignant doit avant tout être en capacité de pouvoir accueillir la personne. On ne peut pas accueillir tous les handicaps. Effectivement, ça dépend aussi de l'engagement de l'enseignant, mais aussi de sa manière d'être. S'il ne se sent pas à l'aise à accueillir un élève autiste, laissons-lui le temps de se former pour, ou nous pouvons voir s'il est à l'aise sur une autre spécificité. Mais moi, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de recherches, beaucoup de demandes, c'est la raison pour laquelle je propose des formations professionnelles destinées aussi bien aux enseignants artistiques qu'aux agents administratifs qui sont les premiers concernés par l'accueil de ces publics, notamment dans le cadre d'une inscription ou dans le cadre d'un accueil téléphonique. Et donc, c'est Merci. Vraiment très, très important.
Merci beaucoup, Delphine. Chers auditeurs, nous avons, j'espère, pu vous apporter des éléments de réflexion sur l'apprentissage musical destiné aux élèves touchés par un handicap cognitif et sur le travail remarquable que Delphine Descamps réalise depuis aujourd'hui 25 ans. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio-cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et un nouveau grain de causette. Merci Delphine.
Merci beaucoup Bertrand. Je voulais juste ajouter quelque chose. Si jamais vous êtes intéressé, je propose des formations certifiées Calliope répondant aux critères qualité de tout organisme de formation professionnelle, qui sont aussi bien proposés en présentiel sur site ou à distance, et qui permettent justement de s'approprier les outils pour accueillir du mieux possible les personnes en situation de handicap dans tout établissement d'enseignement artistique.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.